Radio France Internationale, 13h en temps universel, 14h ici à Paris, l'heure d'un nouveau journal avec Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Nicolas Brousse, bonjour à tous. Dans l'actualité, l'armée syrienne reconnaît des dizaines de morts et de blessés dans l'attaque d'Alep par une alliance de groupes djihadistes et rebelles. La deuxième ville syrienne est tombée au terme d'une offensive éclair de quelques jours. Trêve très fragile au sud Liban. Ce matin, l'armée israélienne a frappé un site affirmant qu'il servait au Hezbollah pour acheminer des armes. En Géorgie, plus de 100 arrestations. Deuxième jour des manifestations anti-gouvernementales. La position du gouvernement français, plus que jamais fragilisée en pleine crise budgétaire et devant la menace d'un vote de censure à l'Assemblée, c'est l'heure des concessions pour ce gouvernement Barnier en direction de l'extrême droite, également des agriculteurs. Une attaque éclair de seulement 3 jours aura suffi. Les djihadistes et leurs alliés donc contrôlent maintenant la majeure partie d'Alep, deuxième ville syrienne avec 2 millions d'habitants. Elle est située dans le nord-ouest du pays. Les forces anti-gouvernementales ont avancé très vite cette semaine sans rencontrer de véritable résistance. Les autorités ont même pris la fuite. Tout de suite, un témoignage recueilli par notre correspondant au Kurdistan irakien, Lucas Lazo, celui d'une mère de 3 enfants prise au piège par les combats. Elle cherche un moyen de quitter la ville.
Il y a 2 jours, l'armée libre est entrée dans le secteur de Ran al-Assad, situé à seulement 10 km d'Alep. Depuis, ils ont avancé vers la nouvelle ville, le quartier d'Al-Hamdaniya, et même peut-être jusqu'à Al-Furqan, avant de prendre finalement le contrôle de la quasi-totalité de la ville d'Alep. Depuis leur arrivée, les bombardements pleuvent sur la ville. C'est une situation d'angoisse et de chaos. Les déplacements sont complètement interdits. Les minarets des mosquées de la ville ont averti la population. Ne sortez pas de chez vous sous aucun prétexte. Même les sorties essentielles pour aller faire des courses sont complètement interdites. Ma famille est pétrifiée par la peur. Nous avons préparé nos sacs et rassemblé le peu d'argent et d'or que nous possédons pour fuir à la moindre occasion. Mais nous ne savons pas vraiment où aller. Si une opportunité se présente, nous considérons la possibilité de partir pour l'attaquer. Tout est incertain et nous désespérons de trouver un endroit en sécurité. Il y a 2 jours encore, nous nous sommes couchés et tout était normal. La ville que nous connaissons n'est plus la même.
Une habitante d'Alep qui cherche à quitter sa ville. Je vous le disais pour commencer, l'armée syrienne déplore des dizaines de morts et de blessés dans l'offensive des djihadistes et elle confirme la présence de combattants anti-régime dans de larges parties d'Alep. Enfin, des avions de guerre russes et syriens ont ciblé des combattants rebelles aux alentours de la ville dont l'aéroport a été fermé. Au sud Liban, la trêve est très fragile. Ce matin, l'armée israélienne a frappé un site, affirmant qu'il servait au Hezbollah pour acheminer des armes. L'enclave palestinienne de Gaza, elle, attend toujours une trêve. Des discussions devraient avoir lieu aujourd'hui au Caire, où se rend une délégation du Hamas. En plus d'un an de guerre, le gouvernement du Hamas à Gaza déplore un total approchant 44 400 morts. En Géorgie, les autorités indiquent un total de 107 arrestations au deuxième jour des manifestations antigouvernementales. En pleine crise post-électorale, l'opposition reproche au gouvernement sa décision de reporter les discussions sur l'adhésion à l'Union européenne. Hier soir, les forces de l'ordre ont fait usage de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser des milliers de manifestants. Direction maintenant l'Irlande, au lendemain des élections législatives. Ce matin, le décompte des voix a commencé et tout semble indiquer une reconduction des 2 partis centristes de la coalition sortante au détriment du Sinn Féin, le parti nationaliste de gauche. Reportage à Dublin de notre correspondante Clémence Pénard.
Croisé devant un bureau de poste, Paul voit moins d'attrait pour un changement radical depuis la victoire de Trump aux États-Unis et ses menaces sur l'économie irlandaise.
Je pense qu'il est essentiel de préserver la stabilité du gouvernement et d'assurer que les recettes continuent d'arriver. La stabilité, c'est primordial et je doute que le Sinn Féin puisse nous la garantir à ce stade. Personne ne sait vraiment ce qu'ils feraient s'ils accédaient au pouvoir.
Le Sinn Féin, le parti historique d'opposition qui prône la réunification de l'Irlande, a pourtant fait de très bons scores et aurait même une légère avance par rapport aux 2 partis au pouvoir. Mais l'un comme l'autre ont rejeté tout au long de la campagne une alliance avec le Sinn Féin, au grand dam de Hazel.
Tout ce cirque avec le Fine Gael et le Fine Fall qui font semblant de se battre, puis qui finalement forment une coalition, c'est totalement absurde. Ils ne veulent tout simplement pas lâcher le pouvoir. Ça fait 14 ans que le gouvernement répète sans cesse les mêmes choses encore et encore. J'espère sincèrement qu'il y aura un véritable changement cette fois, car nous en avons besoin.
À la mi-journée, le Fine Gael et le Fine Gael sont bien placés pour continuer à être les deux grands piliers de la coalition au pouvoir en Irlande. Ne restera plus qu'à trouver un troisième petit parti d'appoint, les travaillistes ou bien les verts, pour former une majorité solide. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
En Roumanie, la Cour constitutionnelle dira lundi s'il convient d'annuler les résultats du premier tour de la présidentielle. Un scrutin remporté dimanche dernier par un candidat indépendant pro-russe. Ce vote surprise a entraîné des suspicions d'irrégularité. La Cour a repoussé ses décisions au lendemain des législatives qui se tiendront demain dimanche. Comme la présidentielle, ces élections pourraient profiter à l'extrême droite roumaine. Il y a un mois, le sud de l'Espagne connaissait des inondations catastrophiques. Bilan 230 morts, la très grande majorité dans la région de Valence. Un mois après, les conséquences restent très lourdes pour la plupart des entreprises de la région. Reportage de notre envoyé spécial, Pauline Glaise.
Des chaises nettoyées au Karcher sur le trottoir, l'espoir pour Pascal Romero de sauver quelque chose dans son agence immobilière. La liste des travaux pour la restaurer est longue.
Couper les murs au milieu, mettre une nouvelle installation électrique, changer tous les ordinateurs, tous les meubles. Et pour l'instant, on s'autofinance.
Et il ne pourra pas rouvrir avant plusieurs mois. Après avoir subi pour 3 millions d'euros de pertes d'équipement et de voitures dans son garage concessionnaire, Fernando Bayet paie des entreprises pour pouvoir accueillir des clients au plus vite. Il vise Noël, mais n'envisage pas un retour à la normale avant au moins un an.
L'économie de cette zone a complètement disparu. Certains entrepreneurs ne rouvriront pas. Des gens âgés, des gens qui ont tout perdu, des gens qui n'en ont pas les moyens. Et s'il n'y a pas de commerce autour, les clients ne viendront pas.
Quant au marché, côté vente, Fernando Bayet ne s'inquiète pas trop. Il y aura de la demande pour remplacer les quelques 120 000 véhicules détruits. Mais ce parc automobile manquera à son atelier d'entretien.
On commencera avec moins d'employés dans l'atelier et on verra. Ensuite, on essaiera d'élargir notre offre de services aux motos, aux scooters. Mais on ne va pas attendre sans rien faire.
De nouvelles aides publiques ont été annoncées, mais il examinera les conditions avant d'y avoir recours. Pauline Glaise, Valence, RFI.
En France, la position du gouvernement est plus que jamais fragilisée en pleine crise budgétaire et devant la menace d'un vote de censure à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Michel Barnier a fait des concessions à l'extrême droite, mais aussi en direction des agriculteurs en colère. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, estime qu'ils en ont ras-le-bol des interdictions, des procédures et des normes, autant de boulets selon elle. La ministre a présenté une série de mesures, des mesures de simplification qui vont dans le bon sens aux yeux de la FNSEA et de jeunes agriculteurs, deux des principaux syndicats agricoles. Le gouvernement Barnier tombera si l'extrême gauche et l'extrême droite joignent leur voix sur une motion de censure. Le patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est livré hier soir à une prise de parole qui ne manquera pas d'être commentée, en particulier par les alliés du nouveau Front populaire, Victorien Villaume.
L'été dernier, la France insoumise voulait destituer le président Emmanuel Macron. 4 mois plus tard, Jean-Luc Mélenchon parie toujours sur le départ du chef de l'État.
Manuel Bompard vient d'envoyer une lettre au ministre de l'Intérieur pour lui demander comment il comptait organiser des élections présidentielles si le cas se présente. Ça a créé une certaine émotion.
Si présidentielle anticipée il y a, le chef de file de la France insoumise propose à la gauche une candidature commune autour du programme du nouveau Front populaire.
Nous sommes donc, en effet, partisans d'une candidature commune, on se l'est dit 10 fois, sur la base du programme. Et comme nous irons avec le programme, eh ben, vient qui veut, il est bienvenu.
Mais dans le camp de la gauche, le sujet fait débat. L'ancien président François Hollande, par exemple, se dit catégoriquement contre. Jean-Luc Mélenchon règle justement ses comptes avec une partie de la gauche.
Nous avons compris que les communistes ne veulent plus le Parti communiste. Nous avons compris que la droite du Parti socialiste ne veut plus. Et nous refusons de faire chemin avec des gens qui nous insultent en cours de route.
Si le leader insoumis n'annonce pas ici sa candidature, l'un de ses proches déclarait récemment qu'il était le mieux placé à gauche en cas d'élection. Un scénario pourtant rejeté en bloc par les partenaires socialistes et communistes.
Reportage de Victorien Villaume du service politique. Enfin, le plastique et ses dangers pour la santé au cœur de discussions actuellement en Corée du Sud. Un sommet sur le sujet se tient à Busan. Et ce matin, plusieurs délégations n'ont pas caché leur crainte d'un échec faute de consensus à la veille de la date butoir. Voilà autant d'informations que vous retrouvez sur les versions numériques de RFI, le site internet et l'application Pure Radio. Il est pratiquement 14h10 ici à Paris, à suivre Un jour au village.